Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Sixième épisode.
Pendant tout l'hiver, trois ou quatre fois la semaine, à la nuit noire, il arrivait dans le jardin. Emma, tout exprès, avait retiré la clé de la barrière que Charles crut perdue. Pour l'avertir, Rodolphe jetait contre les persiennes une poignée de sable. Elle s'échappait en retenant son haleine, souriante, palpitante, déshabillée. Rodolphe avait un grand manteau. Il l'en enveloppait tout entière et, passant le bras autour de sa taille, il l'entraînait sans parler jusqu'au fond du jardin. C'était sous la tonnelle, sur ce même banc de bâtons pourris où autrefois Léon la regardait si amoureusement durant les soirs d'été. Elle ne pensait guère à lui maintenant. Les étoiles brillaient à travers les branches du jasmin sans feuilles. Le froid de la nuit les faisait s'étreindre davantage. Les soupirs de leurs lèvres leur semblaient plus forts. Leurs yeux, qu'ils entrevoyaient à peine, leur paraissaient plus grands. Et, au milieu du silence, il y avait des paroles dites tout bas qui tombaient sur leur âme avec une sonorité cristalline et qui s'y répercutaient en vibrations multipliées.
On vient. As-tu des pistolets?
Pourquoi?
Mais... pour te défendre.
Est-ce ton mari? Ah, le pauvre garçon.
Rodolphe réfléchit beaucoup à cette histoire de pistolet. Si elle avait parlé sérieusement, cela était fort ridicule, pensait-il. Odieux même, car il n'avait lui aucune raison de haïr ce bon Charles, n'étant pas ce qui s'appelle dévoré de jalousie. Et à ce propos, Emma lui avait fait un grand serment qu'il ne trouvait pas non plus du meilleur goût. D'ailleurs, elle devenait bien sentimentale. Il avait fallu échanger des miniatures, on s'était coupé des poignées de cheveux, et elle demandait à présent une bague, un véritable anneau de mariage en signe d'alliance éternelle. Mais elle était si jolie. Il en avait possédé si peu d'une candeur pareille. Cet amour sans libertinage était pour lui quelque chose de nouveau, et qui, le sortant de ses habitudes faciles, caressait à la fois son orgueil et sa sensualité. L'exaltation d'Emma, que son bon sens bourgeois dédaignait, lui semblait au fond du cœur charmante, puisqu'elle s'adressait à sa personne. Alors, sûr d'être aimé, il ne se gêna pas, et insensiblement ses façons changèrent. Il n'avait plus comme autrefois de ces mots si doux qui la faisaient pleurer, ni de ces véhémentes caresses qui la rendaient folle, si bien que leur grand amour, où elle vivait plongée, parut diminuer sous elle, comme l'eau d'un fleuve qui s'absorberait dans son lit, et elle aperçut la vase. Elle n'y voulut pas croire, elle redoubla de tendresse, et Rodolphe, de moins en moins, cacha son indifférence. Les apparences, néanmoins, étaient plus calmes que jamais, Rodolphe ayant réussi à conduire l'adultère selon sa fantaisie. Et au bout de 6 mois, quand le printemps arriva, ils se trouvaient l'un vis-à-vis de l'autre, comme deux mariés qui entretiennent tranquillement une flamme domestique. C'était l'époque où le père Rouault envoyait un panier en souvenir de sa jambe remise. Le cadeau arrivait toujours avec une lettre. Emma coupa la corde qui la retenait au panier, et lut les lignes suivantes.
« Mes chers enfants, j'espère que la présente vous trouvera en bonne santé. J'ai appris d'un colporteur qui, voyageant cet hiver par votre pays, s'est fait arracher une dent, que Bovary travaillait toujours dur. Ça ne m'étonne pas, et il m'a montré sa dent. Nous avons pris un café ensemble, je lui ai demandé s'il t'avait vu, il m'a dit que non, mais qu'il avait vu dans l'écurie 2 animaux. D'où je conclus que le métier roule. Tant mieux, mes chers enfants. et que le bon Dieu vous envoie tout le bonheur imaginable. Et il me fait deuil de ne pas connaître encore ma bien-aimée petite fille, Berthe Bovary. J'ai planté pour elle dans le jardin sous ta chambre un prunier, et je ne veux pas qu'on y touche, si ce n'est pour lui faire plus tard des compotes que je garderai dans l'armoire à son intention quand elle viendra. Adieu, mes chers enfants. Je t'embrasse, ma fille, vous aussi, mon gendre, et la petite, sur les deux joues. Je suis, avec bien des compliments, votre tendre père, Théodore Rouault.
Emma resta quelques minutes à tenir entre ses doigts ce gros papier. On avait séché l'écriture avec les cendres du foyer, car un peu de poussière grise glissa de la lettre sur sa robe, et elle crut apercevoir son père se courbant vers l'âtre pour saisir les pincettes. Comme il y avait longtemps qu'elle n'était plus auprès de lui. Elle se rappela des soirs d'été tout pleins de soleil. Les poulains hennissaient quand on passait et galopaient, galopaient. Il y avait sous sa fenêtre une ruche à miel. Et quelquefois les abeilles, tournoyant dans la lumière, frappaient contre les carreaux comme des balles d'or rebondissantes. Quel bonheur dans ce temps-là! Quelle liberté! Quel espoir! Quelle abondance d'illusions! Il n'en restait plus maintenant. Elle en avait dépensé à toutes les aventures de son âme, par toutes les conditions successives, dans la virginité, dans le mariage et dans l'amour, les perdant ainsi continuellement le long de sa vie, comme un voyageur qui laisse quelque chose de sa richesse à toutes les auberges de la route. C'est alors qu'Emma se repentit. Elle se demanda même pourquoi donc elle exécrait Charles, et s'il n'eût pas été meilleur de le pouvoir aimer. Mais il n'offrait pas grand prise à ses retours du sentiment, si bien qu'elle demeurait fort embarrassée dans sa velléité de sacrifice, lorsque l'apothicaire vint à propos lui fournir une occasion. Il avait lu dernièrement l'éloge d'une nouvelle méthode pour la cure des pieds bots, et comme il était partisan du progrès, il conçut cette idée patriotique que Yonville, pour se mettre au niveau, devait avoir des opérations de stréphopodie.
Car que risque-t-on ? Examinez. Succès presque certain. Soulagement et embellissement du malade. Célébrité vite acquise à l'opérateur. Pourquoi votre mari, par exemple, ne voudrait-il pas débarrasser de son pied beau ce pauvre Hippolyte de l'auberge du Lion d'Or ? Notez qu'il ne manquerait pas de raconter sa guérison à tous les voyageurs. Eh bien, qui donc m'empêcherait d'envoyer au journal une petite note là-dessus ? Oh mon Dieu, un article circule, on en parle, cela finit par faire la boule de neige. Et qui sait ? Qui sait ?
En effet, Bovary pouvait réussir. Rien n'affirmait à Emma qu'il ne fût pas habile. Et quelle satisfaction pour elle que de l'avoir engagé à une démarche d'où sa réputation et sa fortune se trouveraient accrues. Elle ne demandait qu'à s'appuyer sur quelque chose de plus solide que l'amour. Charles, sollicité par l'apothicaire et par elle, se laissa convaincre. Il fit venir de Rouen le volume du docteur Duval, et tous les soirs, se prenant la tête entre les mains, il s'enfonçait dans cette lecture.
Les équins, les varus et les valgus, c'est-à-dire la stréphipodie, la stréphandopodie et la stréphexopodie, ou pour parler mieux, les différentes déviations du pied, soit en bas, en dedans ou en dehors. Avec la stréphipopodie et la stréphanopodie, autrement dit, torsion en dessous et redressement en haut.
Ah, Hippolyte, as-tu pensé à cette opération ? À peine sentiras-tu peut-être une légère douleur. C'est une simple piqûre comme une petite saignée. Moins que l'extirpation de certains corps. Du reste, ça ne me regarde pas, c'est pour toi, par humanité pure. Je voudrais te voir, mon ami, débarrassé de ta hideuse claudication avec ce balancement de la région lombaire qui, bien que tu prétendes, doit te nuire considérablement dans l'exercice de ton métier. Mais n'es-tu pas homme, saprelotte ? Que serait-ce donc s'il t'avait fallu servir à les combattre sous les drapeaux ? Oh, Hippolyte !
Le malheureux céda, car ce fut comme une conjuration. Tout le monde l'engagea, le sermonna, lui faisait honte. Mais ce qui acheva de le décider, c'est que ça ne lui coûterait rien. Bovary se chargeait même de fournir la machine pour l'opération. Emma avait eu l'idée de cette générosité et Charles y consentit, se disant au fond du cœur que sa femme était un ange. Cependant, pour savoir quel tendon couper à Hippolyte, il fallait connaître d'abord quelle espèce de pied beau il avait.
Le pied fait avec la jambe une ligne presque droite, ce qui ne l'empêche pas d'être tourné en dedans. C'est un équin mêlé d'un peu de varus. Ou bien un léger varus fortement accusé d'équin. Or, puisque c'est un équin, il faut couper le tendon d'Achille, quitte à s'en prendre plus tard au muscle tibial antérieur pour se débarrasser du varus.
Ni Ambroise Paré, appliquant pour la première fois depuis Cels, après 15 siècles d'intervalle, la ligature immédiate d'une artère, ni Dupuytren allant ouvrir un abcès à travers une couche épaisse d'encéphale, ni Jean Soul, quand il fit la première ablation de maxillaire supérieur, n'avait certes le cœur si palpitant, la main si frémissante, l'intellect aussi tendu que M. Bovary quand il approcha d'Hippolyte, son ténotome entre les doigts. Charles piqua la peau. On entendit un craquement sec. Le tendon était coupé, l'opération était finie. Hippolyte n'en revenait pas de surprise. Il se penchait sur les mains de Bovary pour les couvrir de baisers.
Non, calme-toi, calme-toi. Tu témoigneras plus tard ta reconnaissance envers ton bienfaiteur.
Puis Charles, ayant bouclé son malade dans le moteur mécanique, s'en retourna chez lui, où Emma, toute anxieuse, l'attendait sur la porte. Elle lui sauta au cou. La soirée fut charmante, pleine de causeries, de rêves en commun. Ils parlèrent de leur fortune future, d'améliorations à introduire dans leur ménage. Ils voyaient sa considération s'étendant, son bien-être s'augmentant, sa femme l'aimant toujours. Et elle se trouvait heureuse de se rafraîchir dans un sentiment nouveau, plus sain, meilleur. Enfin d'éprouver quelque tendresse pour ce pauvre garçon qui la chérissait. L'idée de Rodolphe, un moment, lui passa par la tête. Mais ses yeux se reportèrent sur Charles. Elle remarqua même avec surprise qu'il n'avait point les dents vilaines. Mais une semaine plus tard...
Au secours ! Hippolyte se meurt ! Il se meurt !
Oh, mais qu'a donc notre intéressant stréphopode ?
Il se tordait, le stréphopode, dans des convulsions atroces. Si bien que le moteur mécanique où était enfermée sa jambe frappait contre la muraille à la défoncer. Avec beaucoup de précautions, pour ne pas déranger la position du membre, on retira donc la boîte et l'on vit un spectacle affreux. Les formes du pied disparaissaient dans une telle bouffissure que la peau tout entière semblait près de se rompre et elle était couverte d'ecchymoses occasionnées par la fameuse machine. Hippolyte déjà s'était plaint d'en souffrir, on y avait pris garde. Il fallut reconnaître qu'il n'avait pas eu tort complètement, et on le laissa libre quelques heures. Mais à peine l'œdème eut-il un peu disparu que les deux savants jugèrent à propos de rétablir le membre dans l'appareil, et en lissérant davantage pour accélérer les choses. Enfin, 3 jours après, Hippolyte n'y pouvant plus tenir, ils retirèrent encore une fois la mécanique, tout en s'étonnant beaucoup du résultat qu'ils aperçurent. Une tuméfaction livide s'étendait sur la jambe, et avec des flictaines de place en place, par où suintait un liquide noir. Cela prenait une tournure sérieuse. La gangrène, en effet, montait de plus en plus. On avait beau varier les potions, échanger les cataplasmes, les muscles chaque jour se décollaient davantage, et enfin... Charles répondit par un signe de tête affirmatif quand on lui demanda si on pouvait, en désespoir de cause, faire venir M. Canivet de Neuchâtel, qui était une célébrité. Le confrère ne se gêna pas pour rire dédaigneusement lorsqu'il découvrit cette jambe gangrénée jusqu'au genou. Puis, ayant déclaré net qu'il fallait amputer, il s'en alla chez le pharmacien déblatéré contre les ânes qui avaient pu réduire un malheureux homme en un tel état.
Nous ne sommes pas si forts que cela, nous autres. Nous ne sommes pas des savants, des mirliflores, des jolis cœurs. Nous sommes des praticiens, des guérisseurs, et nous n'imaginerions pas d'opérer quelqu'un qui se porte à merveille. Redresser les pieds beaux. Est-ce qu'on peut redresser les pieds beaux? C'est comme si l'on voulait, par exemple, rendre droit un bossu.
Homais souffrait en écoutant ce discours, et il dissimulait son malaise sous un sourire de courtisan, ayant besoin de ménager Monsieur Canivet, dont les ordonnances, quelquefois, arrivaient jusqu'à Yonville. Aussi ne prit-il pas la défense de Bovary. Ne fit-il même aucune observation, et, abandonnant ses principes, il sacrifia sa dignité aux intérêts plus sérieux de son négoce.
Assieds-toi, tu m'agaces.
Quelle mésaventure, pensait-il. Quel désappointement. Il avait pris pourtant toutes les précautions imaginables. La fatalité s'en était mêlée. N'importe, si Hippolyte plus tard venait à mourir, c'est lui qui l'aurait assassiné. Et puis quelle raison donnerait-il dans les visites quand on l'interrogerait? Peut-être cependant s'était-il trompé en quelque chose? Il cherchait, il ne trouvait pas. Mais les plus fameux chirurgiens se trompaient bien. Voilà ce qu'on ne voudrait jamais croire. On allait rire, au contraire, clabauder. Cela se répandrait jusqu'à Forges, jusqu'à Neuchâtel, jusqu'à Rouen, partout. Qui sait si des confrères n'écriraient pas contre lui? Hippolyte même pouvait lui faire un procès. Il se voyait déshonoré, ruiné, perdu. Et son imagination, assaillie par une multitude d'hypothèses, ballottait au milieu d'elle comme un tonneau vide emporté à la mer et qui roule sur les flots. Emma, en face de lui, le regardait. Elle ne partageait pas son humiliation, elle en éprouvait une autre. C'était de s'être imaginé qu'un pareil homme pût valoir quelque chose, comme si 20 fois déjà elle n'avait pas suffisamment aperçu sa médiocrité. Comment donc avait-elle fait, elle qui était si intelligente, pour se méprendre encore une fois? Du reste, par quelle déplorable manie avoir ainsi abîmé son existence en sacrifice continuel? Elle se rappela tous ses instincts de luxe, toutes les privations de son âme, les bassesses du mariage, du ménage, ses rêves tombant dans la boue comme des hirondelles blessées. Tout ce qu'elle avait désiré, tout ce qu'elle s'était refusé, tout ce qu'elle aurait pu avoir. Et pourquoi? Pourquoi?
C'était peut-être un valgus.
Pardon?
Tout en lui l'irritait maintenant. Sa figure, son costume, ce qu'il ne disait pas, sa personne entière, son existence enfin. Elle se repentait comme d'un crime de sa vertu passée. Et ce qui en restait encore s'écroulait sous les coups furieux de son orgueil. Elle se délectait dans toutes les ironies mauvaises de l'adultère triomphant. Le souvenir de son amant revenait à elle avec des attractions vertigineuses. Elle y jetait son âme, emportée vers cette image par un enthousiasme nouveau. Et Charles lui semblait aussi détaché de sa vie, aussi absent pour toujours, aussi impossible et anéanti que s'il allait mourir et qu'il eût agonisé sous ses yeux.
Embrasse-moi donc, ma bonne.
Laisse-moi!
Qu'as-tu? Calme-toi, reprends-toi. Tu sais bien que je t'aime. Viens.
Ah, assez!
Viens.
M'aimes-tu?
Mais oui, je t'aime.
Quand Rodolphe, le soir, arriva dans le jardin, il trouva sa maîtresse qui l'attendait au bas du perron, sur la première marche. Ils s'étreignirent, et toute leur rancune se fondit comme une neige sous la chaleur de ce baiser.
Beaucoup?
Certainement.
Tu n'en as pas aimé d'autres,
hein? Crois-tu m'avoir pris vierge? Emma!
C'est que je t'aime! Je t'aime à ne pouvoir me passer de toi, sais-tu bien? J'ai quelquefois des envies de te revoir où toutes les colères de l'amour me déchirent. Je me demande où est-il. Peut-être il parle à d'autres femmes. Elle lui sourit, il s'approche. Oh, non, n'est-ce pas? Aucune ne te plaît? Il y en a de plus belles, mais moi, je sais mieux aimer. Je suis ta servante et ta concubine. Tu es mon roi, mon idole. Tu es bon. Tu es beau. Oh, tu es intelligent. Tu es fort.
Charles déboursa 300 francs pour une jambe de bois dont elle jugea convenable de faire cadeau à Hippolyte. Le pilon en était garni de liège et il y avait des articulations à ressort, une mécanique compliquée recouverte d'un pantalon noir que terminait une botte vernie. Mais Hippolyte, n'osant à tous les jours se servir d'une si belle jambe, supplia Madame Bovary de lui en procurer une autre plus commode. Le médecin, bien entendu, fit encore les frais de cette acquisition. C'était Monsieur Lheureux, le marchand, qui s'était chargé de la commande, et cela lui fournit l'occasion de fréquenter Emma. Il causait avec elle des nouveaux déballages de Paris, de mille curiosités féminines, se montrait fort complaisant et jamais ne réclamait d'argent. Emma s'abandonnait à cette facilité de satisfaire tous ses caprices. Ainsi, elle voulut avoir, pour la donner à Rodolphe, une fort belle cravache qui se trouvait à Rouen dans un magasin de parapluies. Monsieur Lheureux, la semaine d'après, la lui posa sur la table. Mais le lendemain, il se présenta chez elle avec une facture de 270 francs, sans compter les centimes. Emma fut très embarrassée. Tous les tiroirs du secrétaire étaient vides.
« Je vais être forcé, dans ce cas, de reprendre toutes les marchandises que vous avez. »
Et reprenez-les.
Oh, c'est pour rire. Seulement, je ne regrette que la cravache. Ma foi, je la redemanderai à monsieur.
Non, non.
Hein? Soit. Nous verrons. Nous verrons.
Elle rêvait comment se tirer de là, quand Félicité déposa sur la cheminée un petit rouleau de papier bleu de la part de Monsieur de Roseraie. Emma sauta dessus, l'ouvrit. Il y avait 15 napoléons. C'était le comte. Elle entendit Charles dans l'escalier. Elle jeta l'or au fond de son tiroir et prit la clé. 3 jours après, Lheureux reparut.
« J'ai un arrangement à vous proposer. Si, au lieu de la somme convenue, vous vouliez prendre... »«
La voilà !»
Le marchand fut stupéfait. Alors, pour dissimuler son désappointement, il se répandit en excuses et en offres de services qu'Emma refusa toutes. Puis elle resta quelques minutes palpant dans la poche de son tablier les 2 pièces de 100 sous qu'il lui avait rendues. Elle se promettait d'économiser, afin de rendre plus tard à Charles.
« Ah bah, il n'y pensera plus. »
Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Adaptation, Pauline Timonier. 6e épisode. Avec Pascal Rénéric, Aurélie Nusillard, Philippe Bautier, Julien Honoré, Jean-Michel Mollet, Hervé Pierre, Mauricette Gourdon, Dominique Parent, Emmanuel Matt, Bernard Bouillon, Peggy Martineau.
Musique originale et piano, Mathieu Lombolet, avec le quatuor Hanson et Thomas Tantina à la contrebasse.
Bruitage, Benoît Fèvre, Patrick Martinache. Conseillère littéraire, Catel Guillou. Prise de son, montage, mixage, Claude Niort, Manuel Couturier, Éric Villenfin. Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbaum. Réalisation, Laure Egoroff.